Moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez de chez vous,
bordel. Je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Allez, touchez ferme, sortez.
Oui, franchement, c'est trop chouette. C'est trop intéressant. Allez, c'est quoi?
Sortez. Vous voulez sortir? Vous voulez sortir?
Je suis chocolat.
Vous sortez tous avec nous.
Sors.
Il est 16h sur Radio Campus Tours, le 99.5 FM, et vous écoutez l'émission Que Sortez. Je suis comme toujours accompagné de Marie. Bonjour Marie.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir trois étudiantes en formation d'assistante de service social à l'Institut de formation sanitaire et sociale La Croix-Rouge Compétences à Chambray-les-Tours. Nous sommes donc en compagnie de Souad Tazi, Célia Ostéan et Maëlle Sicher. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Et donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste le métier ?
Alors, une assistante de service social est une professionnelle qui apporte son aide à des personnes qui ont des problèmes familiaux ou encore financiers, qui sont au chômage ou qui ont des problèmes d'addiction aussi, à titre d'exemple. Donc, elle informe et accompagne, elle n'assiste pas, mais elle accompagne surtout tout type de public, donc surtout les plus fragiles et les plus précaires en matière d'accès aux droits, exemple l'accès au logement, aux prestations sociales, etc. Et voilà, face aux accidents de la vie auxquels on pourrait tous être confrontés un jour, on aura peut-être besoin d'une assistante de service social pour nous accompagner, pour être plus indépendants et puis pour sortir, enfin pour trouver une solution à nos problèmes. Voilà.
Et donc vous êtes toutes les trois étudiantes dans cet établissement de la Croix-Rouge. En quoi elle consiste, cette formation d'assistante de service social, et en combien de temps elle se fait ?
Alors c'est une formation qui dure 3 ans, donc elle débouche sur un diplôme d'État, donc niveau licence. Si on veut, on peut poursuivre un master après pour upgrade, on va dire. C'est une formation qui dure 35 heures semaine. Elle comporte 8 semaines de stage la première année, et en deuxième année et troisième, 7 mois chacune, qui sont rémunérés pour la deuxième et troisième année. Donc ça, c'est cool. On a plusieurs, enfin les matières qu'on peut rencontrer.
Ouais, plusieurs cours pratiques.
Ouais, plusieurs cours pratiques pardon, et théoriques, comme beaucoup de psycho, pas mal de droits aussi, de la socio. Voilà, ce sera plus des matières de ce type.
En termes de matières, si pour compléter ce qu'a dit Maëlle, en fait, c'est vrai qu'on a un socle théorique très intéressant. En termes de matière, on a le droit, on a la sociologie, on a même la philosophie de l'action.
Oui, exactement. Et alors, quelle thématique ça peut comprendre ?
Alors, ça comprend... l'examen d'hier, c'était sur l'éthique.
Oui. D'accord.
Donc, c'est... Voilà. Comment faire le choix quand on est confronté à des choix difficiles, comment peser le pour et le contre, pour le dire trivialement. Donc voilà, l'éthique est très très importante dans le métier d'assistante de service social. Je voulais juste, ça me tient à cœur en parlant des matières,
ouais, bien sûr.
De dire que voilà, que bien que c'est des matières qui sont en lien avec la théorie, elle nous forme aussi, c'est comme un socle qui façonne pas, mais qui nous prépare au réel aussi, au réel de par les stages qu'on va faire. Exactement. On va discuter après des stages, etc.
Et justement, vous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas encore en stage et que vous n'en avez pas encore fait. C'est pas trop dur pour l'instant de se projeter à partir de cette théorie-là ?
Si, vraiment, c'est dur parce que, certes, on a toutes les compétences théoriques pour savoir comment anticiper la chose, mais face à une personne, on ne saura pas vraiment comment faire. C'est vraiment les stages qui vont nous apprendre comment réagir face à telle ou telle situation.
Donc, vous le disiez, c'est tout un ensemble de matières théoriques. Est-ce qu'il y a justement quelques enseignements qui vous préparent à des cas pratiques ?
On a des mises en situation.
Oui.
Qu'on rencontre par exemple en lien avec le code déontologique. On va avoir un texte qui va nous expliquer une situation d'une personne avec plein de facteurs qu'on doit identifier, et à partir de ce moment-là, on doit identifier quel problème traiter. Ça, on va faire régulièrement, et on a aussi des...
Ouais, on a eu un partiel sur ça.
Oui. Oui, oui. Où vraiment, on va être mise en situation et on va devoir anticiper et réagir face à ça.
Tout à fait. On a aussi des intervenants qui sont des professionnels sur le terrain, tout professionnels confondus qui sont dans l'action sociale. Pas forcément que des assistantes sociales qui interviennent pour nous parler, par exemple, de toutes les actions qui peuvent être collectives, parce qu'une assistante sociale travaille en individuel, mais elle accompagne aussi, elle fait des actions collectives, culturelles ou autres, avec d'autres partenaires, donc pour aider en termes de politique de la ville.
Ça peut prendre quelle forme, par exemple, ces interventions collectives ?
Ça peut prendre des actions culturelles, par exemple, pour former des jeunes qui sont en rupture de scolaire, etc., de les réinsérer socialement par la musique. Ça, c'est un exemple tout bête.
Oui.
Et c'est Stéphanie Gabory, qui nous a, notre formatrice, par ailleurs, qui nous a introduit à cette notion d'action collective.
Bah, on a pu aussi faire une semaine où on a pu découvrir plusieurs
ateliers
et notamment l'écriture qui rentre dans une action collective où par exemple des jeunes en réinsertion pourraient mettre en pratique l'écriture pour justement trouver...
Tout ça pour dire juste que notre centre de formation n'est pas une citadelle imprenable où on apprend aux étudiants à juste de la théorie et on est complètement isolé du réel. Non, on ne forme pas justement...
C'est des formations qui justement invitent et nécessitent une pratique.
Tout à fait. Et pas que des... comment on appelle ça ? Que des techniciens. Mmh. Il y a le côté humain. Vous parlez tout à l'heure de...
Oui, qui est crucial dans les formations sociales.
Tout à fait. Donc, c'est ça. Le côté humain est hyper présent dans notre formation.
Et donc, toutes les trois, en quelle année est-ce que vous êtes et est-ce que vous faisiez autre chose avant de rejoindre cette formation ?
Oui, on est toutes les trois en première année. Mm-hmm. Donc, première année. Et moi, juste avant la formation, j'étais au lycée. J'ai obtenu mon bac et directement après la formation, j'ai décidé de venir... à l'école de la Croix-Rouge pour la formation assistante de service social.
Est-ce que déjà, dans le choix de tes spécialités au lycée, tu avais un petit peu orienté ça, SES, etc. Pas du tout.
Moi, j'étais en STMG, donc c'est la filière technologique.
Ouais, j'y étais aussi. Ouais.
Ouais, voilà. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est des cours tels que l'économie, le management, la gestion. Après, il y avait le droit qui est un des cours de
assistance sociale. Que tu as retrouvé, oui.
Voilà. Mais ce n'est vraiment pas du tout quelque chose en rapport avec... la formation.
Okay.
Mais ça, c'est pas pour autant que je n'ai pas pu accéder à la formation.
Moi, je suis en réorientation. Donc je sors d'une année de licence de sciences du langage. Voilà, donc on peut penser que ça n'a rien à voir, mais si, parce que j'ai toujours été attirée par le secteur du handicap. Et dans cette licence-là, on pouvait apprendre la langue des signes, donc je trouvais ça intéressant. Et j'ai décidé en fait de partir directement en école d'assistante de service social à la suite de ça.
D'accord, donc moi j'étais aussi dans le secteur du handicap, c'était mon dernier travail. J'étais auxiliaire auprès d'élèves en situation de handicap, mais dans une vie antérieure j'étais pigiste dans des radios. Et j'ai fait du service client, enfin, j'ai un parcours assez diversifié. Et puis nous... dans la formation, on est toutes différentes. C'est très inclusif comme classe, comme promotion.
Oui.
Je vous laisse.
On provient tous de milieux, de parcours. Et on a tous des âges différents. C'est hyper diversifié. On a autant de post-bac que de réorientation, que de poursuite d'études ou même de reprofessionnalisation. Oui. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et ça participe aussi à la formation en elle-même parce que c'est apprendre à vivre ensemble en fait, puisqu'en fait on fait beaucoup énormément
de choses.
C'est ça, on va beaucoup travailler en groupe et des fois c'est vrai qu'on peut être confronté à avoir une personne complètement différente en face de nous. Et ça participe aussi vraiment à la formation en tant que telle, outre les cours théoriques qu'on a.
C'est voulu et pensé,
ouais,
tout à fait, par les formateurs, par l'équipe pédagogique.
Oui. Et on nous disait aussi que cette année, c'était la première fois où il y avait autant de diversité dans la promo, surtout notamment envers les gens qui sont en reconversion professionnelle. Mmh. C'était la première fois qu'il y en avait autant.
Vous êtes nombreux aussi, les jeunes.
Oui.
Et pourquoi avoir choisi du coup la Croix-Rouge
pour cette formation ?
Parce que c'est le temple de la formation en termes de... Val-de-Loire. Oui. Et c'est, voilà, ça, c'est une référence en termes de formation.
Notamment à Tours, il n'y a que cette formation pour devenir assistante sociale.
Oui, bah, personnellement, moi, je ne viens pas de Tours à la base. Donc, j'ai choisi ça parce qu'effectivement, c'était à la Croix-Rouge et qu'il y avait un panel de formation dans le médico-social. En fait, ça comprend autant infirmiers, cargothérapeutes, plein de secteurs. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis, la qualité des locaux aussi, on peut quand même en parler. Oui. Ils sont vachement pensés pour les élèves. Les idées viennent des élèves, en fait, et les formateurs sont à l'écoute de ça. Donc, c'est hyper qualitatif et très agréable de travailler là-bas, en fait.
Et puis, il y a toujours une évaluation interne en termes de besoins des étudiants, des apprenants, etc. Ils sont très attentifs à nos besoins éducatifs et puis, en termes d'infrastructures, de parking et de plein d'autres...
Et même de besoins à l'intérieur de la structure.
C'est ce que tu évoquais, Maëlle. Donc, le lieu de formation La Croix-Rouge Compétences à Chambray, il propose aussi un certain nombre d'autres formations. Quel grand domaine de formation est-ce qu'on peut retrouver dans l'établissement ?
Le domaine qui prendra le plus de place, si je peux dire ça va être plus le côté infirmier. Parce que c'est là où c'est la promotion la plus grande en fait, qu'on retrouve dans l'Institut. Après, on va avoir aussi les ergothérapeutes, les aides-soignants, donc les assistants de services sociaux.
Oui, les infirmières puéricultrices, les animateurs éducatifs et sociaux, les aides-soignants, tu l'as dit.
Oui, et les CESF.
Oui, CESF.
Les conseillers en économie sociale et familiale.
D'accord. Et donc, si des auditeurs souhaitent se renseigner pour des formations après le bac ou pour une réinsertion, quelles sont les démarches à faire pour s'inscrire dans l'établissement ?
On peut soit passer par Parcoursup si on a encore l'âge et le parcours requis. Sinon, on peut passer aussi par... c'est en lien aussi avec le financement de la formation. La formation, elle coûte 23 000 euros pour les 3 ans. On voit 7 000 euros l'année, mais vraiment pas de panique. en fait, il y a très peu de gens qui font la formation qui le payent en fait, de leur poche, puisque c'est financé par la région. Donc la région offre par année un nombre de places. Mm-hmm. Cette année, il y en avait 60 pour Parcoursup. Donc en fait,
Que vous avez les chiffres des promotions ? Enfin, quel effectif il y a dans les promotions ?
Là, on était 67 au départ.
D'accord. Donc effectivement, la région finance une bonne partie des formations.
Oui, mais c'est pas la seule moyen. Il y a aussi les...
Pôle emploi.
France Travail, coup.
France Travail.
Oui, l'employeur, il y en a aussi qui passent par l'employeur, qui finance en fait leur reprofessionnalisation, les points CPF aussi. Ouais.
Ouais. On a par exemple notre camarade Mélissa qui, elle est secrétaire médicale et elle a été financée par son employeur.
D'accord. Donc, voilà. Donc en fait, ça reste quand même assez accessible.
C'est accessible pour tout le monde.
Oui, pour tout le monde.
Je voudrais revenir sur une petite chose, sur la mixité. Est-ce que ça aurait pu être une raison pour vous d'entrer du coup à la Croix-Rouge ?
Moi, personnellement, oui, parce que c'est un domaine inclusif et c'est quelque chose que j'aime. Déjà, rencontrer diverses personnes d'horizons différentes. Donc le fait d'être avec des personnes complètement différentes de moi, ça me permet déjà d'apprendre sur moi chaque jour et de découvrir les pensées, comment les gens travaillent, etc. En fait, vraiment de découvrir quelque chose que je connais pas du tout.
Alors moi, à l'inverse, je m'y attendais pas du tout pour le coup. Je pensais que justement, on allait tous se retrouver plus ou moins avec le même profil, en fait. Et du coup, j'ai été hyper étonnée par ça. Mais effectivement, ça fait énormément apprendre sur soi-même et ça fait sortir de sa zone de confort, ça c'est sûr.
Tout à fait. Je tiens à signaler aussi qu'on a des étudiants qui viennent de l'étranger aussi. Oui. Des étudiants comme moi qui ne sont pas d'origine française aussi. Donc c'est vraiment très, très inclusif en termes de diversité. C'est hyper important de le souligner.
Il y a un beau panel de profils.
Oui. Et pour revenir aux modalités de sélection, votre question de tout à l'heure, donc il y a une étude de dossier. Après, on fait un dossier.
Oui.
Après, il y a une étude de dossier par l'équipe pédagogique. Mm-hmm. Et suite à ça, il y a une épreuve orale d'admission qui, elle, dure 20 minutes. Donc, ça passe vite hein, si ouais. on est passionné oui. et motivé. Et donc, après, il y a des aménagements d'épreuves pour les candidats qui ont des qui sont en situation de handicap. Donc, voilà, il y a des aménagements. Et puis, par la suite, il y a la publication des résultats. Et en septembre, en général, c'est la rentrée pour toute formation confondue à la Croix-Rouge Compétences.
Et alors, comment se déroulent vos stages, Maëlle ? Tu disais, il y en a un par an. Un par année de formation. Donc, à quel moment ils interviennent ? Est-ce que c'est tout le temps au second semestre ?
Oui. D'accord. C'est alors pour la première année, parce qu'après pour les deuxième et troisième années, en fait, ça comprend quasiment, enfin, toute l'année, hein, quelques mois après. Ouais.
Est-ce que c'est de l'alternance ou c'est vraiment une année de stage ?
Alors non, c'est vraiment stage. Mmh. On peut aussi passer par l'alternance si on le souhaite. Mmh. Mais alors du coup, ça implique qu'on soit à un endroit pour les 3 ans ou pour les 2 ans en fonction de où on le trouve. Mmh. L'avantage, après c'est un choix évidemment, l'avantage de passer par les stages, c'est qu'on peut vraiment découvrir plusieurs panels et milieux en fait. Et ça c'est très intéressant si on veut voir si on veut aller vers le handicap, l'insertion, ça peut passer par partout en fait. Voilà.
Et dans quel établissement et quel service donc peut exercer une assistante de service social ?
Il y en a tellement.
Voilà, ouais. Auprès de quel public ça ? J'imagine que c'est très, très large.
C'est super large.
Déjà, c'est tout public confondu. Oui. Donc,
dès lors qu'on est en situation.
Exactement.
Dès lors qu'on a un besoin, en fait, d'être orienté ou accompagné.
Ça ne comprend pas que les personnes en situation précaire, en fait. Hein. N'importe qui peut être touché. Par exemple, moi, j'ai une situation qui me vient en tête. Une assistante sociale à la CAF peut elle accompagner dans le deuil. Une situation de deuil, on l'a tous, je pense, plus ou moins vécu. Et si on a du mal à gérer ça, une mère de famille qui a perdu son mari et qui doit s'occuper de ses enfants, elle peut passer par une assistante sociale qui peut l'accompagner. Ouais. Donc c'est très large. Il y a des assistantes sociales
en milieu hospitalier, dans des maisons de solidarité, des écoles, vraiment partout.
Ouais, le plus grand pourvoyeur d'emploi, ça reste quand même le département. Oui. C'est le département qui emploie le plus les assistantes de services sociaux. Et il y a un déficit ces dernières années de recrutement, justement. On ne gagne pas des millions, mais il faut être... il faut aimer l'autre et avoir le souci de l'autre.
Mais qu'est-ce qui, vous, dans vos parcours, vous ont fait vous dire « Ok, je me dirige vers cette carrière ».
D'avoir travaillé par exemple pour Maëlle ou avec les gens en situation de handicap, pareil pour moi, pour Célia
Moi en fait c'est du fait de ma personnalité, j'ai toujours eu envie de faire un métier dans l'accompagnement et qui soit utile aux autres. Mmh. Et du coup de par ça, ça en a découlé sur assistante sociale.
Est-ce que c'est aussi par rapport à des expériences personnelles ? Est-ce que dans ta famille tu t'es pas mal occupée de membres de ta famille ou vraiment tu t'es dit assez tôt j'ai envie de me soucier des autres et d'en faire un métier.
Je sais pas si je pourrais dire que j'ai de réelles expériences personnelles, mais c'est vraiment venu au lycée. Ça peut paraître bizarre, mais c'est par rapport à des livres que j'ai lus où j'ai découvert le métier. Et en fait, le fait de voir que l'assistante sociale elle est vraiment là pour accompagner la personne et l'aider, ça a vraiment fait matcher avec ma personnalité. En fait, je me dis c'est vraiment ce que je veux faire et je sais que c'est ça et rien d'autre quoi. Il y a rien d'autre qui m'intéresse. S'il n'y a pas ça, franchement, je ne sais pas où je serai aujourd'hui.
Moi, je me reconnais assez là-dedans aussi. J'ai découvert les métiers des travailleurs sociaux dans le film Hors Normes et Pupilles, si jamais ça peut intéresser. Je trouve que ça montre vraiment bien les réalités du travail. Moi, c'est pareil, ça, c'est ce qui m'a vraiment motivée. Ouais. Et après, on fait des stages au lycée, et puis ça confirme ou non. Moi, ça a confirmé en tout cas. Donc, voilà.
Et donc, moi, c'était au fil de mes expériences radio, justement, où j'ai beaucoup bossé avec des radios locales. À Toulouse notamment, où j'ai eu à faire des sujets sur des associations, sur des gens qui étaient en situation de précarité, sur des actions locales, en termes d'insertion professionnelle surtout. Donc ça n'a pas été le déclic, mais ça m'a parlé, quoi. Et c'est resté dans mon subconscient. Et c'était, il y a un fil conducteur. Après, il y a une fibre aussi, hein, pour le souci de l'autre, je pense, pour nous toutes, pour toute la promo.
Ouais.
Et donc, voilà. Mais encore une fois, on n'est pas dans un angélisme béat de ceux qui font des études dans le social, les gauchos, vous savez, toutes les idées là, pas du tout. On est très confrontés à la réalité. Donc, on étudie les politiques sociales. Encore une fois, c'est pas des techniciens. On ne nous prépare pas pour devenir des techniciens dans une logique comptable, mais carrément des gens qui ont eu...
Non, avoir un relationnel.
Tout à fait.
On va pouvoir y revenir juste après, du coup.
Merci à vous. Première présentation. On va faire une petite pause musicale donc sur le 99.5 FM. Qu'est-ce qu'on va écouter, Samuel ?
On va écouter Do, qui vient de sortir du coup son nouveau son AVLV pour marquer ce début de 2025.
Prêt ? Et on peut commencer. Action.
Pas besoin de me présenter. Capitaine Mazing à fond, il me faut minimum 10 cas par semaine pour réaliser l'ascension. Mais bon, le chemin est parsemé de pièges, mais nous on veut l'or, du coup c'est normal qu'on en perde sommeil. Comme Semfa, je fais fondre son cœur avec ma chansonnette. Face à moi-même, j'essaie d'être plus honnête. Keep an eye comme personnel. On ne voit même plus les prix. Le gifting est devenu une habitude. Tu peux te fier au sap du moine. Mazing ne porte que des sapes qui tuent. Ainsi va la vie. J'suis le numéro uno dans mon lit. Amasser des billets sous mon lit. Appelle-moi le capitaine, j'prends le lit. Ainsi va la vie. J'suis le numéro uno dans mon lit. Amasser des billets sous mon lit. Appelle-moi le capitaine, j'prends le lit.
C'est tout, c'est
28 piges,
débrouillard à plein temps.
J'cause peu de litiges.
Ne crois pas que j'plaisante.
T'es mal à maîtrise. Tout est calculé. Les pièces s'emboîtent comme Tetris.
Ça s'emboîte comme Tetris.
Une équipe armée de couteaux, de tournevis. La flamme a grandi depuis l'époque de Denis.
Amazing, c'est WAM.
Équipe à fond, ça débarque avec un flot de 2032. Switching musique, ça laisse plus qu'un bleu. OGP pour la référence. Et je sors le pompe, je touche au moins deux. C'est de la bonne musique qui en veut.
Y'en aura plus après 22h22.
C'est trop violent, impossible que ça vienne d'eux. Qui va nous comparer à ces petits merdeux?
Ainsi va la vie. J'suis numéro uno dans mon lit. Amasser des billets sous mon lit. Appelle-moi le capitaine, j'prends le lit. Ainsi va la vie. J'suis numéro uno dans mon lit. Amasser des billets sous mon lit. Appelle-moi le capitaine, j'prends le lit.
Insensé de penser que je vais changer. Cette idée va te mettre en danger. Keep an eye unique comme la pangée. C'est danger. L'assiette est prête, on va tous manger. Tatoo et pigeon, on va te mélanger. Billions de gamos comme à danger.
Ainsi va la vie. J'suis numéro uno dans mon lit. Amasser des billets sous mon lit. Appelle-moi le capitaine, j'prends le lit. Ainsi va la vie. J'suis numéro uno dans mon lit. Amasser des billets sous mon lit. Appelle-moi le capitaine, j'prends le lit.
De retour sur Radio Campus Tours, le 99.5 FM. Vous venez d'écouter Do avec son nouveau son AVLV. Il est temps à présent de nous intéresser encore un peu plus à nos invités. Alors je rappelle que Souatazi, Célia, Ostéan et Maëlle Sicher sont avec nous aujourd'hui.
Rebonjour.
Et donc, dans quel secteur est-ce que vous faites vos stages ?
Enfin oui, on parlait oui avant du parcours étudiant et donc du stage qui intervient tous les ans. Et vous nous disiez que vous allez bientôt être en stage. Donc dans quel établissement est-ce que vous alliez les faire ?
Alors moi, j'ai ma réponse mardi, mais normalement ça serait dans le secteur hospitalier. Donc avec deux assistantes sociales et plus précisément en cancérologie.
Alors moi, ce sera dans un centre médical, pédagogique et psychiatrique qui accompagne des jeunes de 0 à 20 ans dans toute problématique liée à la santé mentale.
Et donc moi, ce sera dans une MDS, une maison des solidarités, à jouer les tours. donc qui fait partie du département.
On n'a pas un service civique là-bas.
Et ce sera auprès d'une assistante sociale. On appelle ça de polyvalence, en polyvalence de secteur. C'est-à-dire que c'est des assistantes sociales qui travaillent dans un secteur géographique bien défini. C'est par rapport au périmètre géographique et elle peut. En polyvalence de secteur, il y a polyvalence aussi. Donc elle traite de toute problématique liée à l'enfance, aux personnes âgées ou aux personnes en situation de précarité, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Enfin, c'est très diversifié comme public.
Et est-ce qu'il y a des spécialités ou des établissements que vous aimeriez intégrer, donc soit pendant vos stages ou à l'issue de votre formation ?
J'aimerais bien intégrer un hôpital. Ça me parle beaucoup. J'aimerais beaucoup. Après, pour travailler dans le secteur public, il faut passer un concours. Oui, il y a un concours à passer pour travailler, pour être... comment dire ça pour travailler dans le public.
Fonctionnaire.
Voilà. Oui. Donc, il y a un concours à passer.
Alors moi, pour l'instant, j'ai envie de tout tester. Donc, en 3 ans, ce ne sera pas suffisant. Mais là, pour l'instant, oui, ce serait plus la problématique de mon premier stage qui m'intéresse et le secteur handicap. Et j'aimerais bien voir le milieu hospitalier aussi. Après, c'est aussi important de dire que c'est très compliqué de trouver des stages. Déjà, on est 100% autonome dans la recherche. L'école nous guide, mais ne nous en trouve pas à notre place. Donc, parfois, on peut être... déçu, si je puis dire, de l'endroit dans lequel on va être. Mais après, ça reste toujours une découverte. On ne peut pas trop prédire. On peut penser ne pas aimer et en fait adorer. Il faut rester assez ouvert de toute façon dans ses recherches.
Et pour revenir au fonctionnariat, en fait, c'est un concours qui s'appelle un concours d'assistant territorial socio-éducatif, qui est un concours de catégorie A et que les assistantes de service social peuvent passer pour devenir fonctionnaire.
Et donc, est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'histoire de cette profession et de son évolution ?
La profession était liée à la charité,
oui.
Au XIXe siècle, parce que le clergé avait la main sur tout ce qui était en rapport avec tout ce qui était charitable. Et après, il y avait une association de bourgeoises un peu partout en France, de femmes, de féministes, on les appelait des féministes catholiques, qui ont, travaillé dans des maisons de... On appelait ça comment déjà ?
On les appelait les travailleuses sociales. Hein. C'était des maisons de solidarité, en fait, qu'elles ont créées. Donc ça a commencé à Paris, en Paris 11e.
Tout à fait.
Et ensuite, ça s'est démocratisé après la séparation de l'Église et de l'État. Et c'est devenu un travail uniquement exercé par les femmes. Et ça a participé à leur émancipation. Puisqu'en fait, après l'après-guerre, etc., ça y a joué avec les intendantes d'usine, etc.
Tout à fait.
Et puis après, ça a été institutionnalisé dans les années 50. Et puis après, tout ce qui est diplôme, etc., dans les mêmes années. Et c'est à partir des années 2000 qu'on a commencé à avoir la polyvalence de secteur. Donc on en a parlé. Ça a permis de... couvrir en fait l'entièreté du territoire, chaque département pouvait avoir son assistante de service social, on pouvait toucher un plus grand nombre de personnes grâce à ça.
Voilà. Et au départ, au fait, les dames bourgeoises étaient inspirées des dames bourgeoises anglaises, avec les settlement houses et tout. Donc voilà, il y a quand même une inspiration anglo-saxonne par rapport à ça.
Peut-être
alors, on apprend tous les jours.
Ouais, moi, du coup, en ayant fait un peu de sociologie, oui. est-ce que assistante sociale, donc c'est une profession qui a. Enfin, est-ce que vous avez repéré une évolution ces dernières années aussi de la profession,
ouais. Oui, c'est sûr. Évolution négative ou positive, on ne sait pas trop. Parce que c'est vrai que le côté institutionnel prend de plus en plus le pas sur le côté parfois humain. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la faute des institutions ou des politiques ? Ça, on ne sait pas vraiment. Il y a aussi le budget qui rentre en compte par rapport à ça, entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on voudrait faire et ce qu'on ne peut pas faire toujours. Donc ça, c'est sûr. Et puis l'évolution aussi des médias, enfin, ce n'est pas le mot correct, mais du côté Enfin, plus derrière un ordinateur et moins dans l'humain aussi. Ouais. Enfin,
le numérique,
qui prend de plus en plus le pas là-dessus. Donc, c'est aussi une nouvelle façon de travailler. En tout cas, c'est ce qu'on entend.
L'évolution des supports, du coup.
Voilà, aussi. C'est ça. Ouais. C'est ce qu'on entend quand les travailleurs sociaux nous parlent de leur. On gère beaucoup au féminin parce que c'est encore une majorité de femmes. Ouais, les hommes sont ça. Les bienvenus. Hein. Mais c'est, voilà, c'est...
Donc, c'est encore un métier. 95%, je pense.
C'est encore un métier très, très genré.
Oui, c'est dommage. Elle est féminine à 95% la profession. Donc, on invite tous les garçons de France et de Navarre. Non, de Touraine.
Alors, justement, que dire à des hommes pour les accueillir davantage vers les professions du Caire?
On a besoin de vous aussi pour couvrir le plus de personnes possible. Hein. Parfois, les personnes pourraient vouloir se préférer un homme dans certaines situations plutôt qu'à une femme, avoir aussi une vision différente de la nôtre. Enfin, ça apporte encore plus d'enrichissement à la profession, quoi. Ça
enrichit. Et après, c'est vrai. C'est dans l'imaginaire collectif aussi que c'est lié aux femmes assistantes. Déjà, on dit assistante sociale en général quand on parle. Ouais. Donc, mais c'est, voilà, ça pourrait être intéressant en termes de diversité, qu'il y ait plus un regard, peut-être pas différent, mais un regard aussi masculin.
Une approche différente, en tout cas, sûrement.
Tout à fait.
J'y viens, à ce regard collectif, justement. Vous souhaitiez, en venant ici, casser cette image négative qui a pu être associée à la profession, donc celle d'une assistante sociale qui retire les enfants à ses parents et qui crée des traumatismes. Comment vous expliquez cette idée reçue et qu'avez-vous à en dire ?
Peut-être parce qu'au début, en termes d'histoire, c'était très lié aux... je ne me rappelle plus comment on les appelait. On parlait de charité et tout. Et l'idée vient de là. Déjà, au Moyen-Âge, la charité était liée au peuple, aux indigents.
À la basse-cour.
Voilà. Je cherche un mot. Mais donc, et après, l'idée s'est perpétuée et s'est ancrée dans nos esprits, quoi. Et c'est difficile, justement. On a des cours sur les stéréotypes, sur
les préjugés,
les préjugés et tout. C'est hyper difficile de changer les stéréotypes et les préjugés. Donc ça, c'est un stéréotype
aussi
de l'assistante sociale.
L'assistante sociale, elle est toujours représentée comme la méchante...
dans l'histoire.
Ouais, voilà, dans l'histoire.
Qui place.
Exactement.
Les enfants.
Je sais qu'hier, on a pu échanger avec d'autres personnes de l'établissement, donc des ergothérapeutes, aides-soignants, etc. Et on m'a beaucoup dit que l'assistante sociale, c'était vraiment celle qui retirait les enfants parce que, de par leur parcours, l'assistante sociale était toujours méchante, en fait. Et donc, ils ont gardé cette image en tête de...
Puis, je pense que c'est aussi à la représentation qu'on se fait parfois, qu'on peut voir dans les films, qu'on peut lire dans les livres. C'est peut-être aussi une méconnaissance du métier dans ce qu'il est réellement, quoi, qu'on peut retrouver aussi dans d'autres métiers du secteur social. Mais après, c'est sûr que ça existe, hein, les assistantes sociales qui retirent les enfants à leurs parents, ça peut être une réalité aussi, mais c'est pas que ça. Et puis, il y a tout un contexte aussi à prendre en compte.
En fait, elle accompagne les enfants et elle accompagne surtout les parents.
Oui.
Il y a des cas où, je parlais tout à l'heure de deuil, aussi il y a des cas de séparation où un couple est complètement désemparé, ils ne savent pas trop. Ils peuvent justement aller voir une assistante sociale qui va les guider. Et puis, même s'ils se séparent, pour l'intérêt de l'enfant, elle va faire un accompagnement, par exemple, socio-éducatif ou autre. Donc là, on est vraiment dans une logique d'accompagnement. Voilà.
Et puis il y a aussi vraiment ce côté pression institutionnelle hein, quand même qu'il faut marquer. On voudrait faire certaines choses, mais par manque de moyens, parfois, on ne peut pas intervenir aussi vite. La hiérarchie ne suit pas forcément non plus derrière. Donc il y a aussi ça, c'est l'assistance sociale, elle est au front, donc elle peut se prendre en fait tout le côté négatif, mais elle n'est pas responsable.
C'est ça, en gros, elle prend pas les décisions arbitrairement parce que elle a une sorte de cahier des charges qui fait que...
Ah non, on a une déontologie aussi, un code. C'était quand le code, les filles?
C'était cette semaine. Hein.
Mais ça me permet là encore de faire un pont, c'est formidable. Quels sont les défis liés au métier d'assistante sociale?
Moi, je trouve que c'est les défis éthiques, quand même. Parfois, on peut être dans deux situations éthiques complètement envisageables, mais on va devoir faire le choix entre l'une et l'autre, parce qu'on a aussi un code déontologique à respecter, des lois à respecter. Voilà, enfin, je trouve ça hyper intéressant, mais on va peut-être pas partir dans le côté juridique. Mais, donc ça, c'est, pour moi, c'est le défi éthique. comment respecter correctement la personne, quoi prendre en compte. C'est vraiment un équilibre entre la loi, l'institution, nous, nos valeurs aussi. Et voilà.
Pas mettre seulement nos valeurs en avant, en fait.
Ah non.
Parce que ça peut vite prendre le dessus et après...
C'est ça, comment jauger entre investissement personnel et rapport professionnel.
C'est un vrai défi. Hein.
C'est avec l'expérience, je pense.
Oui. D'autant plus qu'on travaille souvent dans un milieu pluridisciplinaire, avec des médecins, avec des accompagnateurs sociaux. Donc c'est un défi aussi, de pouvoir conjuguer les efforts pour accompagner les personnes qui en ont besoin.
Et donc on parle de valeurs, est-ce que vous... lesquelles est-ce que vous portez à travers cette promesse, cette formation et cette profession?
Ça peut paraître un peu bateau, mais c'est l'humanisme dans tout son sens,
et
honnêtement.
La justice sociale aussi.
Oui, qui fait partie de voilà des valeurs qui sont véhiculées. Enfin, on le vit aussi, hein. Dans la formation, on est écouté.
Entre nous, on le vit aussi. Oui, si, c'est sûr. En fait, de par la classe qui est déjà... quand on est arrivé le premier jour, on a fait des débats mouvants et on nous a demandé « Est-ce que vous pensez que tous les travailleurs sociaux ont les mêmes valeurs ?» Alors la moitié a répondu oui, l'autre moitié a répondu non. Et là, les formateurs sont intervenus en disant « Vous allez voir que vous pourrez être surpris. » Et effectivement, déjà, sans encore être allé sur le terrain, on se rend compte qu'entre nous, au sein de la classe, on a des valeurs qui divergent. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une plus ascendante sur l'autre. Enfin, en fait,
ça reflète vraiment l'entièreté des parcours.
Complètement. Et on sait qu'on le retrouvera aussi sur le terrain. Et déjà, je trouve que c'est la vie que je m'en fais. Juste déjà maintenant, je m'en rends bien compte... sans encore avoir expérimenté le métier, quoi.
Mais ce qui m'a bluffé personnellement aussi, c'était la qualité des intervenants.
Ah oui.
Franchement, c'est des gens mais qui sont habités par le service et le souci de l'autre, quoi. On a eu Monsieur Romain Ménage qui est directeur de l'association Courteline. On a des travailleurs sociaux mais qui sont d'une qualité. Donc j'invite tout le monde à s'inscrire à la Croix-Rouge, parce que franchement, ils ne seront pas déçus en termes de qualité d'intervenants intérieurs, enfin nos formateurs qui sont eux, des assistantes sociales aussi de formation.
Ou des équipes
Ils viennent du terrain, ouais. Et puis des gens qui viennent de l'extérieur, et franchement ça c'est top pour nous.
Ils nous questionnent magnifiquement bien, je trouve, c'est hyper bien encadré, je trouve.
Oui.
Vous parliez du contexte social tendu en France. Quels sont les éléments qui affectent le plus le métier ?
Les budgets qui sont alloués au social, au secteur du social, qui ne vont pas avec l'effort qui est requis.
Qui est très faible en
soi. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un gros problème.
La considération aussi, sûrement.
Le budget, j'allais parler des salaires, mais aussi dans les activités que vous proposez, dans tout l'accompagnement qui est réalisé. C'est surtout par rapport à ça.
Oui, c'était surtout par rapport
à ça.
C'est pas par rapport au salaire, parce que déjà,
les salaires sont, cohérents avec, avec le travail de fonctionnaire, en fait. Donc, on va dire qu'on n'est pas les plus à plaindre. Oui. Mais
c'est pas un métier qu'on choisit pour le salaire, c'est vraiment
le côté.
Si on veut faire fortune, on ne fait pas assistante de service social. C'est sûr.
Quel conseil, justement, vous donneriez à une personne qui souhaite rejoindre cette formation et ce métier ?
Déjà, qu'elle vienne aux journées portes ouvertes, à la journée porte ouverte du 1er février, là, prochainement. Donc, si vous voulez sortir, sortez intelligemment. Vous serez bluffé par la qualité de l'accueil. Je l'ai fait l'année dernière, c'est pour ça que j'ose parler comme ça. Donc j'y étais l'année dernière et c'était génial parce que j'ai eu plein d'infos, il y avait beaucoup de formateurs, l'équipe pédagogique était présente aussi, quelques-uns étaient là, donc administrative aussi, l'équipe administrative. Donc vraiment, si notre parole peut avoir un écho...
au forum des métiers aussi, on est plus
à fait.
Et si jamais il y a des interventions dans les lycées, je vous invite à y aller parce que moi c'est vraiment ce qui m'a ouvert les yeux. À y participer, j'ai su que c'était vraiment l'information que je voulais faire. Puis avec les portes ouvertes, ça s'est vraiment concrétisé. Et voilà.
Et le forum de formation dont Maëlle parlait, qui est qui d'actualité.
Aujourd'hui,
Donc on a un stand.
Oui.
Donc il y aura lieu demain,
n'hésitez pas,
le forum de l'orientation.
Oui, tout le week-end.
Donc on en sait déjà plus, merci, sur votre formation et sur ce métier d'assistante de service social. Je vous propose donc de faire une nouvelle pause musicale. On écoute Liar de Tindra. C'était Liar de Tindra sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Vous écoutez l'émission Sortez. Et avec nous, Souad, Célia et Maëlle en formation à la Croix-Rouge Compétences. Donc, on a pas mal déjà décortiqué un petit peu les différents aspects de cette profession. Mais c'est vrai que moi, je me posais la question. Comment gérer la charge émotionnelle qui est liée à ce travail qui peut parfois être assez prenant ?
On nous apprend normalement lors de notre parcours académique de faire la part des choses. Déjà pour nous préparer, c'est comme un prélude aux choses réelles, quoi, réelle, ouais. En termes professionnels sur le terrain, quoi. Déjà, on est préparé. On va être préparé à ça. Et puis, lors des stages, qui, eux, vont être vraiment formateurs, parce qu'on sera auprès d'assistantes de services sociaux qui, elles, vont nous guider dans plein de choses liées, justement, entre autres, à la gestion de la charge émotionnelle.
Je pense que ce sera sur le terrain qu'on apprendra réellement, de toute façon. Mmh. Moi, je ne me considère pas comme prête pour l'instant là-dessus. Ouais.
Moi aussi.
Ouais.
Quelles sont les problématiques sociales actuelles qui vous interpellent le plus, notamment par rapport à votre formation ?
Il y en a plein. Il y a l'immigration, la précarisation rampante de toute. La classe moyenne aussi souffre beaucoup et s'appauvrit de plus en plus. Donc il y a la problématique des jeunes aussi qui se retrouvent sans emploi, sans aucune insertion sociale ou professionnelle. Donc. c'est tellement plus, tout se rejoint, hein, tout se...
Est-ce que ça arrive qu'il y ait des étudiants en fin de cycle de scolaire, entre parenthèses, qui viennent à l'assistance sociale pour demander des aides par rapport aux recherches ou... Par exemple, j'ai eu récemment...
Tu veux dire, est-ce que ça peut être une aide, un accompagnement à l'orientation?
J'ai récemment eu une Bac plus 5, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas trouvé de travail, quoi.
Une assistance sociale pourrait éventuellement la réorienter vers
un autre service,
et c'est ça aussi, oui. Hein, le défi d'une assistante de service social.
C'est de connaître tous les services qui peuvent accompagner.
Tout à fait. C'est pourquoi on a beaucoup de cours par rapport à ça.
Puis toutes les aides aussi auxquelles elle pourrait avoir le droit en attendant de trouver un travail, aussi pour vivre
dignement.
Dignement, oui.
Donc il y a un accompagnement, mais c'est pour gagner en autonomie. C'est pas dans l'idée de l'assistance où on fait tout à la place de la personne accompagnée. C'est pas du tout la logique du métier, ni son éthique. Donc pour casser un peu les préjugés liés au métier.
Après, c'est sûr que ce serait un bon, je pense, un bon réflexe d'aller voir une assistante sociale. Voilà, j'arrive pas à trouver du travail, vers qui me diriger. Bah, nous, on est là pour ça, on leur dirige et c'est toujours une aide en plus. Hein.
Et bah, justement, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui hésite à demander de l'aide sociale?
Ça peut arriver à tout le monde et qu'on est tous confrontés ou on pourra, comme je disais tout à l'heure, confronté un jour à des accidents de la vie, hein, à une perte d'emploi, un divorce ou tout simplement un deuil ou autre. Donc c'est comme disait Audrey, à qui on fait un petit coucou, qui n'est pas là. Je vais juste reprendre la définition qu'avait donnée Audrey. En parlant de l'assistante de service social, et pour répondre à votre question, elle dit que l'assistante de service social est quand même est un peu comme un panneau indicateur de la vie, que je trouve l'image assez parlante. Et lorsqu'une personne se retrouve perdue, désemparée, qu'elle ne sait pas où aller, qu'elle ne sait pas quoi faire, quoi, complètement perdue, elle peut penser à une assistante de service social, à une aide réelle et concrète. Donc...
Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je sais que quand ils vont voir l'assistante sociale, c'est toujours par rapport à quelque chose de négatif, mais il faut vraiment déconstruire ce préjugé-là, en fait.
C'est vrai, en plus, j'avais une question comme ça, j'ai dit, est-ce que c'est encore honteux d'aller voir l'assistante sociale aujourd'hui?
Je pense que non. Oui.
Ouais, je sais pas, après, on pourrait aussi poser la même question pour les psys, est-ce que c'est honteux d'aller voir un psy?
C'est vrai.
Bah, aujourd'hui, la santé mentale, je trouve que c'est quand même bien déconstruit comparé à l'assistante sociale.
Oui, mais en fait, tu viens chercher l'aide.
On vient lancer un débat.
Après, ça dépend aussi des représentations qu'on se fait du métier, mais moi, je trouve que c'est plus parler de légitimité. On est tous légitimes à demander de l'aide, et quelle que soit notre situation. Et puis, c'est surtout faire notre travail, littéralement. Donc, nous, on est là pour ça, donc venez, quoi. Y a pas de...
Et après, il y a des augmentations de besoins aussi. On parlait tout à l'heure de manque de moyens. Donc, il y a des besoins qui sont réellement... qui sont concrets, quoi, de populations qui sont en demande d'être accompagnées par des assistantes de services sociaux. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de non-accès aux droits. De toute façon, c'est une des missions de l'assistante de services sociaux, justement, de réfléchir en collectif aussi à l'accès aux droits. De permettre l'accès aux droits, c'est-à-dire permettre aux gens qui n'ont pas de droits, qui ont peur de l'image ou autre, justement d'aller vers les maisons de solidarité, d'aller vers les CAF, etc. Pour
faire des demandes.
Pour retrouver leur autonomie, tout simplement.
C'est, je pense, une réponse qui s'étoffera au fil des années, des stages et de l'expérience. Mais déjà, est-ce que vous, depuis que vous avez rejoint cette formation, qu'est-ce qui vous a le plus surpris en découvrant donc les réalités du métier ou peut-être les réalités sociales aussi?
Personnellement, je vais les découvrir
en stage
d'un point de vue d'une assistante de service social, genre.
Justement, moi, j'allais dire donc personnellement, est-ce que vous vous étiez fait une idée de l'exercice de cette profession et est-ce qu'il y a eu des surprises quelquefois sur ce que vous appreniez en formation?
Honnêtement, je m'attendais au côté théorique, comme un socle formateur. Après, je ne m'attendais pas qu'on soit très autonome en termes de recherche de stage, etc.
Moi, c'est plus le point du se questionner. Je ne pensais pas que ça allait autant remettre en question toutes mes représentations. Je suis arrivée en étant persuadée d'être assez ouverte, etc. En fait, c'était encore pas assez. C'est vraiment tout déconstruire, tout re-questionner. Je vais parler d'éducation populaire parce que si notre prof entend ça, il va être tout content. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est vraiment, on se déconstruit totalement. Et ça, moi, je m'y attendais pas du tout.
Pas à ce point-là, ouais.
Pas à ce point-là, ouais.
Encore, ça va continuer, je pense, hein, parce que c'est une remise en question
en permanence. Puis après, savoir, je veux gérer ça et gérer ça, est-ce que je ne me remets pas trop en question, du coup, est-ce que je suis légitime de penser ça, est-ce que c'est OK? Moi, c'est vraiment ça qui m'a frappée. Enfin, je rentrais chez moi le soir et je suis purée, oh, la journée de fou. Enfin, voilà, c'était plus dans ce sens-là.
Moi, c'est vraiment le fait de remettre littéralement toute ma vie en question.
Ouais, donc beaucoup de questions.
Ouais, c'est ça. En fait, vraiment de me dire, je pensais pas en arriver jusque là, mais je me disais que si j'arrivais pas à devenir ce que j'ai envie d'être, donc assistante sociale, ma vie serait ça serait le néant, en fait. Voilà, c'est vraiment, je pense, un métier que l'on vit.
Un métier de vocation,
voilà,
qu'on exerce et qui se vit, ouais. En fait,
oui, ouais. Voilà.
On le disait, donc on pourra vous retrouver aux portes ouvertes. Est-ce qu'on peut rappeler la date? Le 1er février,
oui, toute la journée. Donc il y aura une équipe pédagogique
qui font visiter les locaux.
Aussi, en parlant de locaux.
Les locaux, c'est l'adresse, c'est
c'est
en face de l'hôpital.
Voilà.
Comment si
de l'hôpital Vinci à Chambalet.
Juste en face.
On peut prendre le 14 si on n'est pas véhiculé, ou le 30.
Ou le 30.
Très bien.
Voilà. Il y a un parking aussi qui est dédié
aux portes ouvertes.
Oui. Donc n'hésitez pas.
Il y aura du café et des gâteaux.
Tout à fait.
Et donc on vous retrouve également au forum de l'orientation, si c'est bien le terme, au forum de l'orientation, oui. Donc demain au Parc Expo.
C'est ça.
Et comment également est-ce qu'on peut soutenir les actions bénévoles de la Croix-Rouge?
Oui, vous pouvez, si vous êtes intéressé, d'aller sur le site de la Croix-Rouge, le site de l'association de la Croix-Rouge.
Qui est donc bien distingué de celui de l'établissement de formation.
Oui. Donc qui, lui, par exemple, qui est centenaire et qui œuvre depuis des années, par exemple, dans la formation des gestes de premier secours, oui. Etc. Ou pour aider les plus démunis, donc en termes d'alimentation, etc. Oui. Donc n'hésitez pas, si vous avez un moment à consacrer à cela et donner un sens à votre vie.
Mais merci beaucoup à toutes les trois pour votre participation aujourd'hui.
De rien. Donc on laisse place à une chronique culturelle d'Estelle qui a pu poser quelques questions à la danseuse étoile Aurélie Dupont pour la sortie de son livre Danse.
Estelle, sur Radio Campus. Va voir, lis-le, découvre. Danse, conseils, astuces et souvenirs d'une danseuse étoile est un ouvrage d'Aurélie Dupont publié en octobre 2024. Figure majeure de la danse classique française, ancienne directrice de la danse à l'Opéra de Paris, elle partage son expérience et transmet un savoir-faire acquis au fil d'une carrière exceptionnelle. Mais avant de plonger au cœur de l'ouvrage, écoutons Aurélie sur son lien avec la Touraine.
J'ai la sœur de ma mère qui habite ici, donc je suis venue plein de fois pour des réunions de famille, des Noëls, des anniversaires, des fêtes, et puis parce que j'adore le vin.
Le livre est organisé en plusieurs parties qui reflètent les grandes étapes et dimensions de la vie d'une danseuse étoile. Aurélie Dupont propose des conseils pratiques aux jeunes danseuses ou danseurs, qu'ils soient débutants ou confirmés. Elle aborde des sujets comme la préparation physique, échauffement, prévention des blessures, la technique bien sûr, position, saut, pirouette, mais aussi la discipline avec la gestion du stress avant une audition ou un spectacle. Le récit est écrit comme un journal intime. Elle y inclut des astuces et réflexions personnelles basées sur son propre apprentissage, tout en partageant des anecdotes ou souvenirs marquants de sa carrière, notamment ses collaborations avec des chorégraphes renommés ou des représentations mémorables. Il dévoile les coulisses de l'opéra, ses défis, ses incertitudes et ses succès.
C'est vrai que c'est un métier difficile, mais je dirais plus que c'est exigeant, c'est facile parce qu'il y a beaucoup de joie et un plaisir qui est inégalable. On ne retrouve pas le plaisir de la scène, je crois, ailleurs. Et donc, c'est ce livre danse pour les enfants. Je l'ai écrit comme un journal intime. Il y a pas mal de photos de moi quand j'étais petite. Vraiment, je raconte tout mon mode d'emploi que je me suis mis en place tout au long de ma carrière pour danser au mieux, gérer le track, apprendre à construire un personnage, apprendre à s'attacher au travail sur la musique et tout ça. Donc, je dirais que c'est un petit lexique qui peut répondre à des questions pour les enfants et aussi poser de vraies questions. Eux-mêmes trouveront leurs réponses, j'espère.
Malgré son statut prestigieux, Aurélie Dupont partage avec sincérité des aspects parfois peu connus du monde de la danse. Une simplicité et une honnêteté qui rendent ce livre accessible même aux lecteurs qui ne connaissent pas ou peu cet univers artistique. Dans un autre livre publié en avril 2024 aux éditions Albin Michel, on retrouve les principaux thèmes tels que le dépassement de soi, la passion de la danse et bien évidemment la transmission. Je vous invite à écouter Aurélie qui revient sur le titre de cet ouvrage autobiographique « N'oublie pas pourquoi tu danses ».
C'est juste une manière de trouver du sens aux choses qu'on entreprend dans la vie, qu'elles soient professionnelles ou amicales ou amoureuses ou la vie en règle générale. Donc je pense que c'est une question qu'on doit se poser dans la vie et prendre le temps de trouver la réponse qui convient à cette question et faire avancer chacun.
Ces livres reflètent l'intensité et la joie qu'Aurélie Dupont a puisée dans sa vie artistique. En associant souvenirs marquants et recommandations pratiques, elle propose un regard riche et authentique sur le monde de la danse. La magie de la scène y est omniprésente, offrant un témoignage inoubliable et profondément inspirant. Que vous soyez danseur passionné ou simple curieux, ces ouvrages vous toucheront, vous guideront et vous rappelleront l'importance de suivre vos rêves.
C'était la chronique hebdomadaire validée, avec cette fois-ci encore une interview de l'autrice. La précédente, c'était avec Fabrice Mettet, qui est artiste peintre. On est gâté.
Oui, je trouve qu'on est plutôt gâté en interview dans les chroniques validées d'Estelle. Donc le podcast de l'émission est à retrouver sur radiocampustour.com et on se laisse sur une touche de musique, donc avec Reflectory du duo polonais Coles. C'est issu de l'album Sénatorium qui est sorti en mars 2024. Et c'est un groupe qui est formé par deux jeunes artistes super talentueux qui est en 2014 dans des tonalités pop, électro, folk. Ça mélange donc pas mal de choses et c'est très planant. On vous laisse écouter ça et on vous souhaite une agréable soirée avec le titre Reflectory.
Co za grymas, znowu cię mijam, wszystko. Radio Campus 99.5. Radio Campus 99.5. J'ai dit Radio Campus 99.5. Radio Campus Tour.